quelqu'un qui arrive. D'accord. Avec Marine. Ça va, vous m'entendez assez là? Ok. Eh bien, si vous êtes là, c'est parce que vous aimez la parole de Dieu. C'est bien. Et que vous avez envie de découvrir des choses. Alors, j'ai cherché un terme pour ce que je vais vous apporter. Enseignement, je ne suis pas une enseignante. Une étude biblique, ce n'est pas forcément une étude biblique. Prédication, je ne suis pas non plus. Donc, je me suis arrêtée sur un exposé. Moi, je vous invite à prendre des notes. Et puis, si vous avez des questions, vous les notez, vous me les poserez à la fin. Ce n'est pas sûr que je réponde. Parce que peut-être que je ne saurais pas répondre. Mais si vous me posez des questions au milieu, peut-être que la réponse, elle est après. Donc, je préfère que vous me posiez des questions après. Si vous en avez, vous n'en aurez peut-être pas. Donc, la parole de Dieu, c'est un trésor dans lequel on peut puiser des perles, des pierres précieuses, des choses à découvrir, un peu comme la parabole du gars qui a trouvé un trésor dans un champ et donc il va vite vendre tout ce qu'il a pour acheter ce trésor. Voilà, donc cette parole, elle est formidable et on peut trouver un tas de choses. Donc je vais essayer de vous faire découvrir ce soir, cet après-midi. Donc il m'arrive d'être impacté par des textes bibliques, par un passage de la Bible. Et quand c'est comme ça, je me dis, il y a quelque chose à découvrir. Donc je lis, je relis, deux ou trois jours après je reviens, je relis, je re-relis, puis ça peut durer des semaines, même des mois, comme pour celui-là. Donc je pose des questions à Dieu, je prends des notes. Pendant ce temps, il y a d'autres textes bibliques qui viennent agrémenter ce que j'ai déjà reçu. Et sans que je cherche vraiment, il y a des choses qui me viennent comme ça. J'entends quelque chose dans une prédication. Tiens, ça c'est bon. Donc des pensées me viennent à certains moments que je m'empresse de noter, sinon je les oublie. J'avais d'ailleurs noté sur une feuille, on était à une conférence chez nos amis juifs, et l'oratrice nous avait donner une explication, enfin une traduction qu'elle avait faite sur le psaume 25-14. Vous savez, le psaume 25-14, ça dit « Les secrets de l'Éternel sont pour ceux qui le craignent ». Une autre traduction dit « Ce sont des secrets qui sont seulement révélés à ceux... » Oui, c'est ça. J'avais perdu ce papier sur lequel j'avais noté cette phrase que j'avais entendue. Et puis j'ai retrouvé par un rabbin une autre traduction qui se rapproche. Et donc il interprétait ce verset comme ça, ce sont des secrets qui sont révélés seulement à ceux qui bêchent sur le terrain saint. Voilà, il faut bêcher, il faut creuser, il faut aller chercher vraiment les secrets, les mystères. Donc c'est ce que j'essaie de faire, modestement, avec l'aide du Saint-Esprit bien sûr. Parce que Paul disait dans 1 Corinthiens 2,10, car l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alors, ce que j'ai reçu, et que je vais partager avec vous, je n'ai pas reçu comme ça, j'ai posé une question à Dieu, puis il m'a dit, ouais, c'est ça. Non, je n'ai pas reçu une révélation. Je n'ai pas non plus de réponse, je n'ai pas eu de réponse toute faite, et je ne vous donnerai pas non plus la réponse toute faite, sinon ben, il y en aurait pour 5 minutes, mais ça ne serait pas très pédagogique. Mais c'est une progression dans ma recherche, c'est une progression. D'ailleurs, Bernard me rapportait un partage qu'il avait eu récemment à la dernière pastorale d'Angers, où celui qui était orateur parlait de Matthieu 13, 35, où Jésus dit « J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. » Et il disait « Si c'est caché, c'est aussi pour que l'on cherche. » Et puis vient la question, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a trouvé? Alors ben, moi je dis, ben, on le partage, on ne peut pas le garder pour soi. Hein. Mais le partager à qui? Ben, à ceux qui ont envie de trouver, de chercher, à des gens, Paul le dit aussi dans 1 Corinthiens 2 d'ailleurs, de l'enseigner à des hommes mûrs, parfaits, des hommes et des femmes, hein, pardon, des hommes et des femmes mûrs, accomplis, adultes, qui n'en restent pas au lait. Donc voilà, je commence. C'était une petite intro. Donc j'aime l'évangile de Jean, depuis toujours, et particulièrement les chapitres 13 à 17, que je considère comme le testament particulier de Jésus aux 12, je vais dire 11, puisque dans le chapitre 13, alors qu'ils se sont réunis pour la scène, Judas va partir, accomplir sa mauvaise action. Donc ils ne sont plus que 11, et pendant ces chapitres de 13 à 17, vraiment c'est quelque chose d'intime que Jésus partage avec ses disciples. Il disait même dans Luc, j'ai vraiment vivement voulu partager ce repas avec vous, et vous êtes plus loin, et vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Voilà, j'arrête là parce que ce n'est pas le sujet de ce message. Et je pourrais en dire plus, mais voilà. Donc c'est comme ça qu'il y a quelques mois, le chapitre 14 de Jean m'a interpellée. Ce chapitre contient des choses importantes, dont l'annonce du la promesse du Saint-Esprit qui sera envoyé, mais aussi le fait que Jésus dise à plusieurs reprises que Dieu, son Père, est en lui, que lui est dans son Père, etc. Donc je me suis arrêtée sur les premiers versets, je ne suis pas allée très loin. Dans la maison de mon Père, Jean 14, 2, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Alors, première parenthèse. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Or, on ne trouve nulle part dans les évangiles une trace de ce que Jésus ait parlé à ses disciples, qu'il y avait beaucoup de demeures et que si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Voilà, on ne trouve pas. Il n'y a aucun passage qui en parle. Mais je crois que toutes les paroles de Jésus n'ont pas été notées. Pendant 3 ans, il a parlé, il a prêché, tout n'a pas été écrit. Et comme dit Jean à la fin de son évangile, si tout avait été écrit, les livres de la terre à ce moment-là n'auraient pu contenir ce que Jésus a dit et fait. D'ailleurs, c'est la même chose pour Pierre, pour Paul, pour Jean, pour Jacques, qui ont écrit des lettres, on appelle ça les épîtres. Mais ils n'ont pas dit que ça aux chrétiens de cette époque-là. Par exemple, si on prend Saül et Barnabas, qui sont pendant une année, ils ont enseigné les chrétiens à Antioche. On ne trouve aucune trace de ce qu'ils ont enseigné. Donc, il y a plein de choses qui n'ont pas été dites, mais que les disciples, les apôtres, ont entendues. Donc, à cette époque-là, ils prêchaient la bonne nouvelle, bien sûr, qu'ils avaient entendue de l'Évangile, appuyée par des textes prophétiques de l'Ancien Testament, puisque à cette époque-là, la Bible de Jésus et des apôtres et des premiers chrétiens, c'était le Premier Testament. Le deuxième n'existait pas. Donc, dans des conversations non rapportées, non écrites, Jésus leur avait déjà parlé des demeures dans la maison du Père. Pourquoi ? Parce que Jésus désirait que ses disciples soient avec lui et voient sa gloire. Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Et Jésus voulait ainsi leur signifier que la séparation n'était pas éternelle, et les avertir aussi quand il dit « Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, et dans peu de temps, vous me verrez de nouveau. » Alors, je vais aller un peu plus loin. Il est dit « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup, selon les traductions, beaucoup, plusieurs demeures. » il y aura du monde, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce verset de l'Apocalypse, il y aura des myriades de myriades, c'est-à-dire des millions de personnes, de chrétiens qui seront avec Jésus. Alors, pas assez de place. Non. Il y a beaucoup de demeures, il n'y a pas assez de place. Est-ce qu'il fallait débarrasser les encombrants, appeler Emmaüs, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y avait dans le ciel? Pourquoi il n'y avait pas assez de place? Plusieurs demeures, il est dit. Alors une pour les baptistes, une pour les pentecôtistes, une pour les catholiques, etc. Alors une question que je me posais, c'était ben, la place n'était-elle pas préparée de toute éternité, comme beaucoup de choses? Par exemple, la cité qu'attendait Abraham n'était pas assez grande? Abraham attendait la cité céleste, il avait eu la révélation de la cité céleste. Il est dit dans Hébreux 11, 10 qu'il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Déjà de son temps, il attendait la cité céleste. Il savait qu'elle existait. On a du mal d'ailleurs à s'imaginer cette cité céleste, hein, décrite par plusieurs prophètes, et puis dans Apocalypse 21. Alors concernant le fait de préparer une place, je dirais qu'il y a beaucoup de spéculations, beaucoup de théories, d'interprétations sur ce verset. Personne n'est vraiment d'accord. Certains versets d'ailleurs ne sont pas toujours très clairs dans la parole. Et ils ne disent pas tout. C'est pour ça qu'il faut chercher. J'ai lu que certains y voyaient des pièces comme dans une maison. Une bibliothèque, un salon, une salle à manger, etc. Un jardin. Ça, jardin, je veux bien le croire. Parce qu'il est dit dans l'Apocalypse qu'il y aurait des arbres, etc. D'ailleurs, je pense à un frère qui était dans notre église, qui était horticulteur, et qui disait « Ah ben, de toute façon, moi, dans le ciel, ça y est, j'ai réservé ma tâche, je vais tondre la pelouse. » Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je ne suis pas certaine que les choses qui se passent sur terre soient pareilles dans le ciel. L'inverse, oui, mais pas... dans le sens terre-ciel, comme ça. Dieu ne va pas nous faire des salons et des salles à manger là-haut, et des bibliothèques avec des livres, on n'en aura plus besoin d'ailleurs, je pense. En tout cas, il y a un commentateur qui dit, il s'appelle Wade Scott, il y a de la place pour tous là-haut, même si vous ne trouvez pas d'abri parmi les hommes, la maison du Père est vaste, mais l'accès doit être ouvert par la foi en Jésus-Christ. La clé, c'est Jésus. Jésus qui est entré dans le sanctuaire et qui nous a ouvert le chemin du ciel. Et quand j'admire, et quand on admire avec Bernard, l'étendue du ciel, les étoiles par milliers, par millions, dont l'homme d'ailleurs n'a pas réussi encore à arriver au bout, hein. Il découvre toujours un peu plus loin. Et une question encore que je posais à Dieu, j'ai dit mais où elle est ta demeure et où elle est notre demeure là-dedans, quoi. On ne sait pas, hein. C'est tellement infini. Bon, finalement, je ne vais pas vous parler des demeures, mais sur ce petit bout de phrase, deux versets que je vais essayer de vous parler, qui dit « En effet, je vais vous préparer une place ». Voilà, c'est la question que j'ai posée à Dieu, je suis partie de là. Pourquoi fallait-il préparer la place là-haut? Donc je vais vous exposer ce que j'ai trouvé dans mes recherches, en toute humilité. Et ça n'avance que moi, mais il y a le pasteur qui est là-bas, il pourra dire si je dis des bêtises. En tout cas, ce que je veux affirmer, c'est que tout ce qui concerne le royaume de Dieu sur la terre existe déjà dans le ciel, mais en plus grand. C'était vrai du sanctuaire de Moïse, du temple de Jérusalem, la Jérusalem céleste, le temple céleste. Sur terre, c'est une pâle image de ce qui est au ciel. Finalement, ce sont des miniatures par rapport à ce qui est dans le ciel. Jean a vu dans Apocalypse 11, « Alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert » et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Alors ceux qui cherchent l'arche de l'alliance, elle est là-haut. Non, ça, vous ne connaissez pas l'arche perdue. Et puis, plus sérieusement, l'agneau immolé, lui, l'était depuis la fondation du monde, dans les lieux célestes. Dans un livre de Austin Sparks, que il y a quelques années, Bernard avait nous avait encouragé à lire, à commander à la librairie. Il écrit que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. La croix, le bois, existaient dans la préscience de Dieu. Il y a bien eu un dessein formé, un dessein de Dieu projeté et mis à exécution. Dans Apocalypse 13,8, il cite toujours « De sorte que la bête sera adorée par tous ceux qui habitent sur la terre, desquels les noms ne sont point écrits au livre de vie de l'agneau, immolé dès la fondation du monde. » Immolé dès la fondation du monde. La version juive dit « Le livre de vie qui appartient à l'agneau immolé avant la fondation du monde. » Il y a une dizaine de jours, ou plutôt nuit, parce que je ne dormais pas, alors que je ne dormais pas, je pensais justement à l'agneau immolé depuis la fondation du monde, et je me suis imaginé ce petit scénario, je crois que d'autres ont écrit aussi sur le même sujet, mais voilà ce que moi j'ai écrit. Est-ce que c'est réel? Peut-être, à vous de voir. Donc Elohim, vous savez, c'est le pluriel de Dieu. Ils étaient trois. Hachem, alors les Juifs appellent souvent Dieu Hachem. Donc j'appelle Hachem, parole, la parole c'est Jésus, et l'Esprit. Ils étaient tous les trois, puis ils se sont concertés. Nous avons créé toutes les créatures célestes, anges, chérubins, mais il nous manque quelque chose, surtout depuis que Lucifer nous a trahis. La place qu'il occupait est trouble et déserte. Notre amour déborde. Nous avons besoin de le partager. Créons une planète avec de l'eau, de la terre, des montagnes, des vallées, des oiseaux, des animaux. Et le summum de tout, l'homme. L'homme avec une intelligence, une connaissance. Nous pourrons l'aimer, communiquer, partager avec lui. Oui, dit l'esprit, c'est une bonne idée. Formidable. Mais Lucifer, il va essayer de s'approprier notre création. Oui, dit Hachem, il le fera. Mais nous ne pouvons nous priver de la présence de tous ceux qui seront engendrés par l'homme et qui résisteront. Mais pour cela, il va falloir que l'un de nous se sacrifie pour libérer les créatures de son emprise. Grand silence. Je me sacrifierai, moi. Pardon. Pour sauver notre humanité de celui, dit celui qui est la parole. Oui, mais tu sais que ce ne sera pas facile, dit Hachem. Il y aura de rudes combats, tu vas souffrir beaucoup, toi-même. Oui, Père, mais j'irai par amour pour nous et au nom de cet amour. Voilà comment l'agneau immolé l'a été dès avant la fondation du monde. Alors pourquoi préparer une place? On en est toujours là. Cet exposé, j'ai aimé qu'il soit vraiment centré sur Jésus et son œuvre merveilleuse pour nous. La croix est rétrospective et remonte bien avant la création. C'était le plan de Dieu, prévu de toute éternité. La différence se situe entre la décision prise depuis le commencement des temps et sa réalisation par Jésus-Christ. Quand Jésus dit à ses disciples « Je vais vous préparer une place », il est conscient du chemin par lequel il va devoir passer, la croix. Le temps pour l'accomplissement de cette parole était juste après la croix, préparer une place. Quand il dit à Marie dans le jardin « Ne me touche pas, je ne suis pas encore remonté vers mon Père. » Il avait encore quelque chose à accomplir dans le ciel. Quand Jésus dit sur la croix qu'il a tout accompli, ça parle de ce qu'il devait accomplir en tant qu'homme incarné. Il a obéi à son père, il est allé jusqu'au bout. Sa mission terrestre en tant qu'homme s'est achevée à la croix. Après qu'il soit descendu et remonté du séjour des morts, et que Dieu l'ait ressuscité des morts, car la mort ne pouvait le retenir, dit la parole. Il y avait tout un processus qui devait se mettre en place, et sur terre, quand il est mort, le voile du temple terrestre s'est déchiré pour signifier que l'accès au sanctuaire nous est ouvert. Lequel sanctuaire ? Pas le sanctuaire terrestre, bien sûr, le sanctuaire céleste. Jésus est entré pour nous en précurseur dans ce tabernacle céleste. Ce qui était provisoire, les sacrifices d'animaux, a été remplacé par un seul sacrifice plus grand, plus parfait. Donc je continue ma progression. Les chapitres 8 et 9 de l'Épître aux Hébreux nous rappellent l'imperfection du rituel de l'ancienne alliance. Le lieu saint où officiaient les prêtres est le lieu très saint, réservé au souverain sacrificateur qui apportait le sang des sacrifices pour le pardon du peuple. Il est dit dans Hébreux 8, 5, « Ils sont au service d'un sanctuaire qui n'est qu'une image, que l'ombre du sanctuaire céleste. » Moïse en a été averti au moment où il allait construire le tabernacle. « Aie bien soin, lui dit le Seigneur, de faire tout conformément au modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Donc Moïse a eu la révélation du tabernacle céleste. Le Saint-Esprit nous montre par là que l'accès au lieu très saint n'est pas ouvert tant que subsiste l'ancien tabernacle, le premier. Alors comment arriver au tabernacle parfait ? C'est le plan éternel de Dieu qui s'est mis en place par la naissance de Jésus qui allait devenir l'agneau immolé en passant par la croix, ce lieu immonde. Jésus savait qu'il devait passer par là et que ce n'était pas une partie de plaisir. Il disait d'ailleurs à ses disciples qu'ils n'avaient pas tout compris à ce moment-là, à leur décharge. Je disais tout à l'heure que Jésus avait dit beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont pas écrites. Dans Matthieu 16, 21, il disait à partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'il devait se rendre à Jérusalem, y subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. C'est Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ce n'est pas Jésus qui est ressuscité tout seul, il est dit, la parole dit, c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Il ne l'a pas laissé dans le séjour des morts. Et ce fait que Dieu ait ressuscité Jésus, ça me bouleverse dans le sens où, quand Jésus portait tous nos péchés à la croix, Dieu s'est détourné de lui. Il s'est détourné à cause de nos péchés qu'il portait. Et dans le fait de le ressusciter, ils retrouvent leur relation intime. Cette résurrection, bien sûr, n'est pas la même que celle opérée sur Lazare et d'autres, puisque Lazare est mort lui aussi. C'est vraiment une résurrection pour la vie éternelle. Donc voilà, il faut bien comprendre le sens de la croix et de la souffrance du Christ et y revenir sans cesse. Donc, tout est accompli. Jésus a dit sur la croix, il nous a rachetés. Et c'est à la croix que nous sommes sauvés, pardonnés, guéri, mais son désir est que nous soyons avec lui dans l'éternité. Alors, une question. Dans ce plan éternel, il n'était pas prévu suffisamment de place. Dieu aurait-il oublié quelque chose ? Et puis, une autre question. J'en pose des questions. Pouvons-nous imaginer que le sacrifice de Jésus, malgré toute la grandeur de cet acte pour nous, pour l'humanité, soit nécessaire pour un autre objectif, mais tout aussi important pour nous. Il y a des choses qui nous dépassent et qui ont leur importance dans le plan parfait et éternel de Dieu. Et moi, ça me bouleverse. La Bible nous encourage à fixer nos yeux sur les réalités célestes. J'avais fait un message en 2014 sur ce sujet, mais à ce moment-là, je n'avais pas encore réalisé ce que ça impliquait. J'en étais qu'au début. Je reviens à Hébreux 9, 23. Ces objets du tabernacle de Moïse, qui représentaient des réalités célestes, devaient donc être purifiés de cette manière-là, avec des sacrifices d'animaux. Avec des sacrifices d'animaux, entre parenthèses. Il fallait de même que les réalités célestes le soient, elles, par des sacrifices bien meilleurs. Traduction juive, mais les réalités célestes elles-mêmes demandent des sacrifices bien meilleurs que cela. Donc je pose encore une question. Le pluriel, des sacrifices bien meilleurs. Pourquoi des sacrifices bien meilleurs pour les réalités célestes? Je n'ai pas trouvé de commentaires qui expliquent, de théologiens qui expliquent ça, je n'ai pas trouvé, qui expliquent pourquoi il fallait des sacrifices meilleurs pour les réalités célestes. Donc, ce que je pense, c'est mon avis bien sûr, hein, ça peut signifier le premier sacrifice de Jésus, c'est d'avoir quitté la gloire du Père et de s'être fait homme. C'est déjà un sacrifice, il a quitté son Père. Le deuxième sacrifice de Jésus, c'est à la croix. Et le troisième sacrifice, c'est celui du Père, lors de la crucifixion. Dieu a participé au sacrifice de Jésus. Le Père a souffert avec son Fils, et ce fut pour lui aussi un sacrifice. Dans ce chapitre 14 de Jean, Jésus dit que le Père et lui ne font qu'un. Donc tout ce que ressentait Jésus, le Père le ressentait. Donc c'était aussi pour lui un sacrifice. Et c'est là que j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs sacrifices. Il fallait des sacrifices bien meilleurs. Et je cite une parole de Bernard que Bernard avait donnée il y a quelque temps, dans un message de Sainte-Seine, je crois. Son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection, est en stress au point de transpirer des grumeaux de sang. Le Père ne le voit pas, seulement il le ressent. Il ressent en lui-même, c'est maintenant comme si lui, le Père, vivait aussi l'agonie que vit le Fils. Simultanément à lui, les souffrances du Fils deviennent ses souffrances. Il est en commune union avec lui. Il souffre des souffrances du Fils. Voilà la réponse que j'ai trouvée à cette question. Pourquoi des sacrifices bien meilleurs, au pluriel? Je reviens toujours à Hébreux. Car ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des hommes, simple image du véritable, que le Christ est entré. C'est dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. Le Christ apparu comme grand prêtre des biens qui sont apparus. Il a traversé la tente plus grande et plus accomplie, qui n'est pas fabriquée par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non pas avec du sang de bouc ou de tourillon, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il a obtenu une rédemption éternelle. Il est entré dans le sanctuaire céleste avec son propre sang. De ce fait, les choses célestes elles-mêmes ont été purifiées et acquises pour nous. Souvent, on regarde les choses d'un point de vue terrestre. Et c'est bien parce que, comme je disais tout à l'heure, la crucifixion de Jésus, c'est là qu'on obtient le salut. Mais il y a aussi les choses célestes. Jésus a offert son sang sur la terre, mais il est monté avec l'offrande de son sang se présenter devant Dieu. je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce qui existe de toute une éternité dans le ciel et qui s'est accompli sur la terre. Donc il y a eu le tabernacle reçu par Moïse. Si vous voulez la référence, c'est Exode 31:18. Le temple de David, qui en a reçu les plans. Ce n'est pas lui qui l'a construit, c'est Salomon, mais c'est David qui a reçu les plans. C'est écrit dans 1 Chronique 28. D'ailleurs, ces choses ont disparu. Elles n'existent plus aujourd'hui. Il n'y a plus de temple, il n'y a plus de tabernacle. Mais il y a une chose qui doit retourner servir au ciel, c'est le sacrifice de Jésus, l'agneau immolé de toute éternité. Le sacrifice de Jésus s'accomplit sur la terre. Le sang est versé sur la terre. Parce que je pense qu'il ne peut pas y avoir d'effusion de sang dans le ciel. C'est un lieu pur. Il ne peut pas y avoir d'effusion de sang dans le ciel. Mais le sacrifice sur terre doit aussi servir au ciel. On verra un petit peu plus tard. Donc pourquoi les réalités célestes devaient être purifiées? Ces objets qui représentaient des réalités célestes devaient donc être purifiés de cette manière-là. Il fallait de même, je répète toujours le même verset, il fallait de même que les réalités célestes le soient, elles, par des sacrifices bien meilleurs. Donc c'est un verset, pour ne pas dire le verset, qui m'a interpellé et m'a emmené plus loin dans mes recherches. Du pourquoi. Donc il nous faut remonter un petit peu dans le temps. On commence par Genèse 1:31. Dieu vit alors que tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour, etc. De toute la création et dans le jardin d'Éden, l'homme également, il dit que c'était bon. Et cela incluait aussi les anges. Et pourtant déjà, le mal existait. Et il se manifeste. Alors que s'est-il passé pour en arriver là? La présence du mal dans l'univers est embarrassante pour tout le monde, pour les théologiens, pour les philosophes, pour nous-mêmes, parce que c'est dû à la difficulté d'harmoniser l'idée du mal et de la conception d'un Dieu bienveillant et saint. On se dit, non, il n'a pas pu créer le mal. Donc nous-mêmes, on a du mal à imaginer, à se dire, mais pourquoi Dieu t'a créé le mal? C'est Carrel qui disait à la dernière formation à la maison de prière, « Même le mal sert à faire progresser le plan de Dieu. » Après qu'Adam et Ève aient péché, encouragés par ce Lucifer, Dieu dit « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Donc la connaissance du bien et du mal existait déjà, et on retrouve l'expression « l'un de nous » dont je parlais tout au début, qui concerne bien sûr la Trinité. Alors pour essayer de comprendre, on va s'arrêter sur une des créatures célestes créées par Dieu, qui est à l'origine du mal, d'une certaine manière, et qui pose problème encore aujourd'hui, malheureusement. Satan, le diable, Lucifer. Lucifer, ça voulait dire porteur de lumière. Donc dans la Bible, il y a deux textes qui sont attribués à Satan. Si vous ne les connaissez pas, je vous cite. C'est Ézéchiel 28, 12 à 15. Fils d'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse, tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraudes, ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur. Aux ailes déployées, je t'avais installé et tu y étais, sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans la conduite depuis le jour où tu as été créé, et ce, jusqu'à ce qu'on trouve en toi de l'injustice. Le deuxième texte est dans Ésaïe 14, 12 à 15. Comment tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Tu as été abattu, toi qui domptais des nations. Tu te disais, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de la rencontre, au plus profond du nord. Je monterai sur les hauteurs des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Mais on t'a fait descendre au séjour des morts, au plus profond du gouffre. Donc dans ces deux textes, Satan est comparé à deux rois de Babylone, l'un de Babylone, l'autre de Tyr, qui étaient des tyrans, des oppresseurs, arrogants, voulant prendre la place de Dieu. Le verset 12 d'Ézéchiel nous dit qu'il était dans le jardin d'Éden, donc ça s'attribue bien à Satan. Pourtant, il avait une place importante auprès de Dieu, chérubin protecteur. Il avait des chanteurs et musiciens qui le servaient. C'était un louangeur. La chute de Satan n'a pu se produire qu'avant celle de l'homme, et une partie des anges ont péché sous sa conduite. On voit dans ces textes que c'est l'orgueil de Satan qui voulait égaler Dieu et même prendre sa place qui l'a amené là. Alors pourquoi? Parce que Dieu a créé toutes les créatures, anges et hommes, avec une volonté autonome, libre de penser, de choisir et d'agir. Alors pourquoi Dieu t'a fait ça? Eh bien parce qu'il est amour. Ça peut être difficile de comprendre, mais non, il n'a pas fait de nous des robots soumis à sa volonté. Mais toutes ces créatures sont appelées à la liberté, même les anges. Sinon, comme disait Bernard un jour, ça serait un dictateur. Donc le mal, l'origine du mal, ça s'est passé dans le ciel, en premier, et non sur la terre. Ce n'est pas l'homme qui est à l'origine du mal, mais Satan, et il s'en prend à la création toute neuve, espérant avoir plus de disciples que Dieu, peut-être. Peut-être, pourquoi pas. Ça n'enlève en rien la responsabilité de l'homme dans le péché, puisque c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde, et ce qui a affecté toute l'humanité. L'homme s'est laissé séduire par le diable, en commençant par Adam et Ève. Donc Satan était à la louange après sa chute, et probablement que le sanctuaire céleste devait être purifié. Son orgueil, son mensonge ont entaché ce lieu saint. Jésus dit dans Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. » Et dans Genèse 3, 15, il est dit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Satan et ses anges ont souillé le ciel, ce ciel qui était pur. Jésus, après sa mort sur la croix, a été ressuscité par Dieu, on l'a dit. Il est monté au ciel pour terminer sa tâche. Purifier les cieux, le sanctuaire céleste qui avait été souillé par Satan. Et ça, il l'a fait pour qui? Pour nous, encore une fois. Il ne pouvait pas nous accueillir dans un lieu non purifié. Il a purifié les réalités célestes par son sang. On a lu qu'il était entré avec son propre sang. Dans Hébreux 9, 12, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non pas avec le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel En effet, il n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Et c'est grâce à ça que nous avons un libre accès auprès du Père. Il nous a ouvert le chemin du ciel. Il s'est présenté pour nous devant le Père avec son propre sang. Il est entré dans le lieu très saint, pas le terrestre. Dans le ciel même, il a libéré le ciel, nettoyé et préparé la place pour nous accueillir. C'est le sang de Jésus qui a purifié les réalités célestes qui avaient été souillées. J'ai lu récemment dans un article quelqu'un qui disait « Je voyais Jésus qui marchait vers son Père en purifiant les cieux » quand il était remonté dans le ciel. Son sacrifice sur terre a donc aussi servi à nous préparer cette place purifiée par son sang. Jésus a donné sa vie sur terre pour nous racheter. Il a payé à notre place, puis il est allé nous préparer une place là-haut. Il a achevé son œuvre de rédemption pour nous. Parce que, disait-il, dans Jean 17, 24, « Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Voilà pourquoi il a dit « Je vais vous préparer une place. » C'est la fin. Je vais terminer par quelques versets d'Apocalypse 21. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. » Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Amen. Je ne sais pas si vous avez des questions.